Ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 2 mars 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver une fois de plus l'heure du midi pour la passer avec Ça vaut le détour. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter en utilisant le mot-clé CVLD ou @ canal barre de soulignement M. Vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur les propos de nos invités. Cette semaine, on termine la semaine, en fait, en se tournant du côté de l'Estrie avec la Fondation des sports adaptés, dont la mission est d'offrir aux personnes vivant avec un handicap physique des programmes sportifs éducatifs dans le but de les encourager à acquérir de nouvelles aptitudes par la pratique de sports de plein air. On parle avec Steve Charbonneau, directeur de la Fondation, à 12h45. Ce midi, on reçoit aussi les deux nouveaux animateurs de la chaîne Ami Télé, Christine Rousseau et Kevin Breton, que vous connaissez déjà car ils faisaient les sports et étaient l'un des lecteurs du bulletin du handicap dans l'émission Les voix de service de Clotilde Seille. Accessibilité Média Inc., AMI, est un organisme multimédia à but non lucratif qui exploite trois services de diffusion. AMI TV, qui est le pendant anglophone de AMI Télé, qu'on retrouve à Montréal, de même que AMI Audio. Il est au service de plus de 5 millions de Canadiens qui sont aveugles, malvoyants, sourds, malentendants, à mobilité réduite ou tout simplement incapables de lire les textes imprimés. On parlera avec eux de la programmation de la chaîne et surtout du défi de l'animation. On discute aussi d'un procès en cours en matière de discrimination en emploi qui soulève un enjeu très important. Risquer la discrimination à l'embauche ou risquer de perdre son droit aux accommodements de travail. La divulgation d'informations sur sa situation de santé ou de handicap est au centre de la question. On commence l'émission en s'adressant aux parents et aux familles avec un jeune vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. On découvre aujourd'hui le programme Caribou, qui offre des interventions spécialisées intensives aux enfants présentant un TSA ou d'autres difficultés de développement. Je reçois en studio Mesdames Nadia Benoît, thérapeute, et Anouk Pellerin, coordonnatrice du programme Caribou. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Donc, on va y aller tout d'abord. Depuis quand le programme Caribou existe-t-il?
Le programme Caribou existe depuis maintenant 1 an et demi. Dans le fond, c'est une
c'est
idée...
C'est tout nouveau.
C'est tout nouveau. On vient de commencer. Mais on est une équipe qui a travaillé très longtemps dans le domaine. Donc, on est une équipe qui se connaît, qui travaille sur différents projets. Et maintenant, ben, en fait, c'est notre bébé, le programme Caribou.
Et quelle est la particularité du programme Caribou par rapport à d'autres initiatives qu'on voit dans le milieu des gens qui travaillent avec les enfants qui ont un TSA?
Ce qui est à savoir, c'est que le programme s'adresse évidemment aux enfants qui ont un TSA à la base, mais les enfants, c'est pas nécessaire qu'il y ait un diagnostic quand ils viennent pour obtenir nos services. En fait, des enfants qui sont en processus de diagnostic ou bien des enfants qui ont une difficulté d'adaptation, un retard global de développement, peuvent recevoir nos services. Donc, on s'adapte vraiment aux enfants, aux familles, on les accueille dans un domaine très chaleureux pour donner le meilleur.
Et ce sont des enfants de quel âge environ qu'on peut y retrouver?
On a des enfants qui commencent autour de 2 ans jusqu'à environ 6 ans.
Donc, on cible vraiment la petite enfance.
Oui, effectivement.
Et pourquoi cette tranche d'âge précisément?
Mais c'est sûr que nous, on voudrait s'adresser aux enfants qui vont éventuellement aller à l'école. Donc, on n'est pas une école en soi, on est vraiment un centre qui offre de l'intervention intensive. C'est des enfants qui, on est très souvent leur premier milieu d'intervention. Souvent, les enfants vont fréquenter la garderie, mais peu le font et ils n'ont pas encore non plus rentré dans le processus scolaire. Donc, vraiment, à ce niveau-là, c'est dans les raisons pour lesquelles on va s'adresser à eux.
Vous parlez justement d'intervention intensive. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Donc, c'est vraiment un programme qui est adapté à chaque enfant. À la base, on va passer différentes évaluations, dont une évaluation qui s'appelle le PEP3. Ça va vraiment nous donner un ensemble global de toutes les sphères de développement de l'enfant, où est-ce qu'il se situe. À partir de là, il y a vraiment un programme qui va être créé pour lui, qui va s'adapter à lui, qui va être fait de façon très, très, très intensive à chaque fois que l'enfant va venir. Donc, il y a vraiment, on a un ratio d'un intervenant pour un enfant, un intervenant pour deux enfants. Donc, on a vraiment un ratio très, très, très restreint. Il passe beaucoup de temps en intervention avec nous, là.
Nadia Benoît, vous êtes thérapeute au programme Caribou. Quelles sont justement les interventions que vous faites? Comment vous travaillez avec les enfants?
On travaille individuellement avec les enfants. Donc, on va aller à la table d'enseignement. On a un programme qui est déjà établi par notre superviseur et on va suivre, on va toucher à tous les aspects moteurs de la communication, aussi au niveau social. Et on va faire beaucoup de travail, on va répéter le programme pour à plusieurs reprises pour que l'enfant intègre les concepts. Et on va aussi travailler en petits groupes ou en grands groupes pour certains, pour les amener aussi à interagir au niveau social, pour développer une conscience des autres.
Oui, justement, parce qu'on le disait, il y en a certains qui fréquentent la garderie aussi, mais ce n'est pas le cas de tous les enfants que vous voyez. Ça peut représenter aussi leur premier milieu de socialisation.
Oui, effectivement. La salle de jeu, on essaie de la rendre... La plus réaliste possible par rapport à ce qu'ils ont à vivre au niveau des contacts sociaux. Alors, ils vont avoir à jouer avec à partager des jeux, à partager un espace, à apprendre à attendre son tour. Pour certains, ils vont développer des habiletés vraiment spécifiques à des jeux aussi pour qu'ils soient capables d'entrer en relation, d'être capables de vivre des échanges plus soutenus avec les autres. Alors, on va vraiment toucher tout l'aspect social des enfants. C'est ça qui fait notre force, c'est qu'on peut autant travailler individuellement qu'en groupe.
Mm-hmm. Comment est-ce que vous arrivez à déterminer les besoins de chaque enfant? Si je pense entre autres à ceux qui sont en attente de diagnostic, comment est-ce que vous faites une évaluation sur place?
Sur place, en fait, on a tout le matériel qui est nécessaire. Ce matériel-là va vraiment, d'une façon très, très, très précise et claire, nous donner vraiment un aperçu de où se situe l'enfant par rapport aux enfants qui ont aussi de l'autisme ou les enfants qui sont neurotypiques, donc qui n'ont pas de difficultés. À ce moment-là, ça va nous donner vraiment un aperçu global dans chaque sphère, où est-ce qu'ils se situent, puis quelles sphères sont à prioriser à ce niveau-là. C'est sûr que quand on parle d'autisme, la communication, la socialisation, l'aspect plus ludique est très, 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 très important à développer. Puis souvent, il y a un retard à ce niveau-là. Donc ça, c'est un aspect qu'on travaille pour tous. Maintenant, il y a des enfants, par exemple, du côté moteur, motricité fine, motricité globale, qui peut ne pas avoir de problèmes. Donc, c'est des aspects qu'on a moins travaillé, mais aussi on veut tellement avoir la motivation chez l'enfant que c'est sûr qu'il y a des aspects qui sont plus développés chez l'enfant qu'on va quand même toucher parce qu'on veut vraiment que celui-ci ait confiance dans sa capacité d'apprentissage.
Mm-hmm. Vous intégrez aussi beaucoup les familles des enfants. Donc, c'est la famille devient en soi un intervenant avec vous.
Absolument.
Ah oui.
On veut vraiment créer une relation très, 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 comment je pourrais dire ça, spéciale avec eux. On veut vraiment, la famille, c'est vraiment le premier intervenant dans la vie de leur enfant. C'est ceux qu'ils connaissent le mieux et c'est eux qui vont vraiment être avec eux le plus longtemps. Donc, on les intègre énormément dans le processus. Ils viennent faire des visites avec nous. Ils font partie de l'élaboration des plans d'intervention. On va aussi aller, si l'enfant est intégré à la garderie, à l'école, on peut aller à la maison aussi. Donc, on veut vraiment créer un environnement le plus opportun pour l'enfant.
Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez, vous, Nadia, lorsque vous travaillez avec les enfants? Est-ce que ça arrive qu'il y ait des parents qui soient présents ou est-ce que vous voyez une évolution grâce au soutien de la famille aussi chez les enfants?
En fait, les premières personnes qui connaissent le mieux l'enfant, ce sont les parents. Et on va aller chercher beaucoup les informations du fonctionnement quotidien de l'enfant. Mm-hmm. Et ce qu'on remarque, c'est que les parents, ils nous donnent beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'ils apprennent avec nous, comment c'est transféré à la maison. Spontanément, il y en a plusieurs que spontanément, ils vont transférer leur apprentissage. Alors, pour nous, ça, c'est des grandes sources d'informations parce que ça nous permet de voir son niveau d'évolution, son rythme, et on s'ajuste aussi à ça. Puis, si les parents ont des besoins vraiment spécifique à l'extérieur du centre. Mm-hmm. Mais si c'est possible pour nous, on va aller vraiment y répondre, puis on va aller faire une différence dans la vie quotidienne de l'enfant, parce que c'est vraiment ça aussi. La vie, ça reste, c'est pas juste seulement dans le centre que l'enfant a des difficultés, mais il va en avoir aussi à l'extérieur. Alors, les parents, toutes les demandes qu'ils nous font, on essaie de plus possible de les soutenir là-dedans.
Oui, puis justement, c'est dans un objectif toujours que l'enfant devienne le plus autonome possible.
Oui, tout à fait.
Quand on parle de programmes de thérapie, de séances individuelles, de séances de groupe, c'est combien d'heures par semaine?
Ça dépend, en fait, des besoins de la famille, des besoins de l'enfant. Nous, en fait...
Ça diffère.
Ça diffère, oui. Tout à fait. Il y a des familles qui vont venir, par exemple, pour 7 heures par semaine, qui vont venir sur 2 matins, 2 après-midi ou une journée complète. On peut avoir aussi des enfants qui vont fréquenter pour 3 matins, 3 après-midi, même chose, jusqu'à 5 en demi-journée. Mais l'enfant peut aussi venir à temps plein, donc plutôt un 35 heures d'intervention semaine. Donc, c'est vraiment selon les besoins de chacun.
Et comment on fait pour s'inscrire, par exemple? Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Parce qu'on sait que c'est quelque chose auquel beaucoup de parents sont aux prises, des listes d'attente un peu partout. Est-ce que c'est le cas à Programme Caribou ou c'est pris en charge plutôt rapidement?
Oui, c'est ça. Notre but, c'est vraiment de prendre en charge le plus rapidement possible pour donner le meilleur à chaque enfant. Donc, présentement, nous, notre but, c'est que la liste d'attente, l'enfant vienne et puisse recevoir dès l'instant présent son service. Donc, d'appeler, de venir nous rencontrer, de venir voir comment qu'on fonctionne, de venir poser des questions. Puis, l'enfant est le bienvenu tout de suite quand ils sont prêts.
Donc, c'est aussi facile.
Oui, oui.
Mais c'est très bien, étant donné que c'est souvent des inquiétudes qui, je suppose, doivent vous être mentionnées souvent.
Absolument, oui. On nous parle souvent, justement, au niveau des listes d'attente. Donc, c'est sûr que, particulièrement pour un enfant qui n'aurait pas un diagnostic, donc n'a pas encore accès à des services, par exemple en CRDI, ce qu'il va avoir... tout de suite après. Mais nous, c'est qu'on peut offrir ce service-là en attendant justement qu'ils reçoivent ces services gouvernementaux, qu'ils reçoivent son diagnostic.
Combien de jeunes, combien de familles, vous travaillez avec combien de familles et combien de jeunes en ce moment?
En ce moment, bonne question!
Au moins une vingtaine.
Oui, pas loin d'une vingtaine de famille.
Il y en a d'une vingtaine, mais c'est bien parce que on voit vraiment que c'est le rapport de proximité.
Absolument.
Et l'approche personnalisée que vous recherchez avec vos familles. En terminant, où êtes-vous situé et comment on fait pour justement prendre contact avec vous?
Donc, pour prendre contact avec nous, c'est aussi simple que de téléphoner. Donc, au 514-383-6006. Il n'y a pas d'extension. Vous pouvez demander Anouk Pellerin sans problème. Je suis toujours disponible. On est situé dans Onsic, un quartier qui est quand même très, très accessible. L'adresse est le 9823 Boulevard Saint-Laurent. On est vraiment au coin de Sauvé. Donc, pour ceux qui viennent en voiture, c'est très accessible. Et en métro, c'est le métro Sauvé. Ce qui est aussi à savoir, c'est que nous avons un site Internet. Donc, au www.autismecaribou.com. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook et aussi, pendant qu'on en parle, nous allons ouvrir aussi un deuxième volet du programme Caribou qui va se situer à Sainte-Julienne, qui va pouvoir répondre aux besoins des enfants plus vers Lanaudière, Laurentides. Donc, c'est ouverture très, très, très prochainement.
Donc, à peine un an et demi plus tard, on parle déjà d'expansion. Oui. On vous souhaite un bon succès. Nadia Benoît, vous êtes thérapeute. Anouk Pellerin, coordonnatrice du programme Caribou. Merci d'avoir été là aujourd'hui.
Merci.
Je pense à toi.
Alors, c'est Marie-Ève Roy avec sa pièce Golden Bay, tirée de son album Bleu Nelson, une nouvelle parution en 2016. Marie-Ève Roy, qu'on connaît aussi comme la guitariste et chanteuse des Vulgaires Machins. Alors, on continue notre émission à Ça vaut le détour. Je reçois en studio Christine Rousseau et au téléphone Kevin Breton, les deux nouvelles têtes d'affiche de Ami Télé. Bonjour.
Allô, Maxime.
Vous allez bien?
Oui, ça va, merci. Toi?
Oui, merci. Donc, si, en fait, on vous attrape en entrevue à la radio, c'est parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas en train d'enregistrer. Faut le dire.
Oui, on a enregistré hier et avant-hier, mais aujourd'hui, on avait congé.
Donc, Ami Télé, j'en parlais en début d'émission, c'est le pendant francophone de la chaîne AMI TV qui diffusait déjà au Canada anglophone. Donc, Accessibilité Media Inc., cet organisme justement qui rend accessible, entre autres, aux personnes aveugles et malvoyantes du contenu télévisuel. Il y a beaucoup de rediffusions d'émissions, mais l'une des émissions maison, c'est le magazine Ça me regarde, dont vous êtes les deux animateurs, parce que je crois que vous n'animez pas en même temps.
Non, exactement. On se les partage. Kevin en prend la moitié, je prends l'autre moitié.
Donc, j'aimerais d'abord qu'on fasse une petite présentation. D'abord, Christine, c'est quoi ton bagage pour t'être retrouvée à l'animation chez Ami Télé?
Oui, disons que c'est tout un parcours de circonstances. Hein. Dans mon cas, j'avais commencé avec des chroniques juridiques à l'automne parce que je suis avocate et puis je travaille surtout en droit de la personne. Alors, et surtout pour les personnes en situation de handicap, moi-même ayant une basse vision causée par la maladie de Stargardt. Alors, c'est comme ça que ça avait commencé. Et puis, après coup, bon, tranquillement, quand est venu le temps des auditions, on m'avait approchée. Puis, je me suis dit que c'était un beau défi, quoique pour moi, c'est tout un autre métier qu'on apprend, là.
Et toi, Kevin?
Ben moi, j'ai travaillé, en fait, chez Canalem il n'y a pas si longtemps déjà. Il y a à peine un mois et demi de cela. Moi, j'ai travaillé comme journaliste à la presse écrite là, pendant un petit peu moins de 2 ans à la fin de mes études à l'université que j'ai fait en communication. Après ça, j'ai commencé à m'impliquer dans le mouvement des personnes handicapées. J'ai travaillé pendant un petit peu moins d'un mois à la radio de Canalem. Là, je faisais des chroniques le matin et je travaillais aux médias sociaux surtout. Et puis, maintenant, j'ai le plaisir de partager l'animation avec Christine.
Quels sont justement tes défis au niveau de l'animation? Parce qu'on parle, oui, de l'expérience en presse écrite, en radio, mais là, c'est la télévision, c'est un autre médium.
Ouais, c'est tout à fait particulier parce que moi c'est la première fois que je fais de la télévision. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que mon expérience à la radio me sert merveilleusement bien, étant donné qu'on est une télévision qui s'adresse en partie, sinon principalement, un public qui est malvoyant. Donc, d'avoir le réflexe de décrire physiquement l'environnement, de décrire des objets, de décrire même parfois des invités quand l'occasion s'y prête, c'est un réflexe que j'ai eu à la radio. Puis maintenant, ça me sert très bien parce que même si la télévision est un média visuel, ben pour les personnes malvoyantes, là, la vidéo description, c'est le moyen de contourner, disons, ce handicap-là.
Oui, justement, on parle de description en direct, si on veut, d'intégration de cette vidéo description.
Exactement. Donc, c'est ça. Donc, quand on reçoit un invité puis qu'il apporte un objet, que ce soit un livre, que ce soit... il n'y a pas si longtemps, on a reçu Rosalie Taillefer-Simard, qui est une artiste visuelle. Donc, on veut quand même faire profiter puis faire apprécier ses œuvres à un public qui est malvoyant. Donc, on prend le soin de faire ce qu'on appelle la vidéo description intégrée. Donc, on laisse l'attention à l'artiste de décrire ses œuvres.
Et donc, il y a constamment ce souci-là d'inclusion, entre autres chez Ami Télé, mais aussi dans Ça me regarde. C'est plusieurs fois par semaine, ce magazine. Quels sujets vous abordez? Quels invités vous recevez? Parce qu'il faut le dire, ça a démarré en décembre 2014. Donc, ça fait plus d'un an déjà que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on y aborde?
En fait, on a 3 épisodes, des nouveaux épisodes par semaine. Donc, les lundis, mardis, mercredis soir, la nouvelle case horaire est à 21h. Et puis, si on le manque, le lendemain, il est en rediffusion à 18h30. Et on aborde tout plein de sujets. Puis ce qui est intéressant aussi, pour faire une petite suite à la vidéo description intégrée, c'est que pour les gens qui ne sont pas nécessairement habitués là, de suivre des émissions en vidéo description, souvent, on entend une voix hors champ qui va nous décrire les éléments là, qui nous sert à comprendre vraiment, qui était purement visuel, qui nous sert à comprendre la suite. Alors que nous, on l'intègre. Alors, il n'y a pas de voix hors champ à Ça me regarde. Donc, et puis, pour les thèmes qui sont abordés, écoute, c'est super varié. Hein? Tout est en lien direct avec la situation de handicap. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, puis Kevin, j'espère que tu vas pouvoir nous dire aussi, toi, tes intérêts. De mon côté, moi, c'est sûr que, bon, avocate, alors tous les dossiers d'affaires publiques de nature juridique, moi, ça m'intéresse énormément. Donc, j'aime ça. Dernièrement, on a abordé le procès Mike Ward, par exemple. Et tout ce qui est technologie, moi, j'adore ça. Tout ce qui peut nous rendre la vie plus facile, puis pratiquement éliminer la situation de handicap. Alors, et dernièrement, là, vous allez voir ça bientôt, on a rencontré un monsieur qui utilise le dermosquelette. C'est vraiment super impressionnant.
Le nom, en tout cas, est assez impressionnant comme ça. On va regarder ça. Et toi, Kevin, justement, tes intérêts et les sujets que tu abordes plus?
Oui, donc de mon côté, moi j'aime beaucoup, je suis un adepte de sport, là, donc à chaque fois qu'on peut parler de sport adapté ou de sport qui inclut des personnes avec un handicap, j'ai beaucoup de plaisir. On a notre chroniqueur Dominique qui vient une fois par mois nous parler de sport. Sinon, il y a Jessie qui est notre journaliste qui fait beaucoup de reportages, donc souvent avec la Fondation des aveugles, donc qui va faire de l'escalade de glace ou bien du tennis adapté, toutes sortes de sports et ça, ben moi j'aime toujours ça, présenter ça. Et sinon, ben tu sais, parmi les autres trucs super intéressants, il y a la sortie au Musée des Beaux-Arts qu'on est allé faire la semaine dernière, il y a deux semaines déjà. Donc on est sorti de notre studio pour aller tourner au Musée des Beaux-Arts qui nous ont ouvert leurs portes à l'intérieur d'une salle d'exposition d'un jeune autiste qui s'appelle Maxwell. Et puis c'était l'occasion là, de recevoir des gens de Corpuscule Danse, on a reçu des gens d'Interface aussi qui rendent accessibles les arts de la scène au public sourd ou malentendant. Ça aussi, c'est des thèmes là, qui m'intéressent beaucoup.
Oui, justement, parce qu'on parle de l'émission qui est enregistrée dans les studios de AMI Télé, mais il y a aussi parfois plusieurs émissions spéciales où on sort des studios, on sort même de la ville. On peut en voir, elles sont entre autres disponibles en ligne. Il nous reste peu de temps, mais j'aimerais savoir... Vous venez de commencer, vous êtes les nouvelles têtes d'affiche. En fait, vous succédez à Luc Fortin, qui a été la première tête d'affiche de AMI Télé. Vous êtes, en 2016, les nouvelles têtes d'affiche. Quelle touche personnelle vous voulez apporter à la chaîne, à l'émission Ça me regarde et aussi, en fait, au milieu des médias? Je vais commencer avec Christine.
Moi, je dirais que... je vis moi-même une basse vision, puis pour moi, c'est super important qu'on se sente inclus, qu'on se sente pas aussi différent qu'on peut peut-être le sentir quand on est dans la société en général. Puis j'aime ça qu'on puisse donner des trucs, même des petits trucs beauté, même dernièrement avec Audrey McCalf. Donc, le fait de se sentir complètement inclus, puis de se dire que le contenu qui est à Ça me regarde, bien, j'ai pas besoin de m'inquiéter que est-ce que ça peut s'adapter à moi ou pas, que je vive avec une basse vision ou avec une cécité complète, on y a déjà pensé parce qu'on sait que vous êtes là, puis c'est pour vous qu'on fait ça.
Moi, pour ma part, là, je suis un adepte de ce qu'on appelle dans le jargon de l'égo-journalisme. Donc, si on peut humaniser les débats, humaniser les causes, puis ça permet de faire ouvrir les yeux aux gens sur les défis, les obstacles que les personnes en situation de handicap vivent, je pense qu'ils vont devenir beaucoup plus sensibles et proactifs dans la recherche de solutions. Donc, moi, humaniser le débat, là, ça fait partie de mon champ d'intérêt puis de mon objectif à la barre de cette émission-là.
Oui, l'égo-journalisme aussi, que tu pratiques via des chroniques Urbania, qu'on peut lire justement dans le magazine Urbania. Est-ce que ça aussi, ça t'a aidé à faire ta place chez AMI, à te faire connaître dans le milieu médiatique?
Ouais, donc le blog d'Urbania, j'ai jamais écrit encore pour le magazine, donc ça va arriver un jour. Mais oui, ça fait 2 ans maintenant que je dirige, tant pour Urbania que pour Balcourbe, qui est leur pendant sportif, puis ça m'a donné une belle visibilité. Puis j'imagine que ça m'a fait découvrir à certains. J'espère que oui.
En terminant, il nous reste une petite minute. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à AMI Télé et à son contenu?
Allez sur le site, directement sur le site internet amitélé.ca. On peut revoir tous les épisodes. Et puis, si on veut le suivre à la télé aussi, il y a un segment chaîne où on voit toutes les chaînes là, pour savoir, avertir notre câbleau distributeur, quel est le numéro de la chaîne.
Et il est offert sur tous les câbleaux distributeurs là, dans le service de base.
Oui, ainsi que Canal M. Quel beau complément. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette courte entrevue. Vous êtes très occupés. Christine Rousseau, Kevin Breton, les nouvelles têtes d'affiche de Ami Télé et du magazine Ça me regarde. Bonne continuation. Merci.
Merci, Maxime.
Merci, Maxime.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
De retour à Ça vaut le détour, je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD ou @canal barre de soulignement M. On continue dans notre émission. Je suis toujours avec Christine Rousseau qui change de chapeau pour ce nouveau segment. On va revenir en fait à ta formation. Tu es avocate de formation.
Oui, ma formation initiale, tout à fait.
Et tu l'as bien décrit, tu as un grand intérêt en ce qui est la défense des droits de la personne, en ce qui est les affaires publiques, les débats sociaux. Et aujourd'hui, on veut aborder cette question-là d'accommodement du milieu du travail, en fait, envers les personnes en situation d'handicap. Le 17 février, on avait reçu à Ça vaut le détour Maître Soudi Bakary à propos justement des obligations que les employeurs ont en matière d'accommodement lorsqu'un employé développe une limitation fonctionnelle ou devient handicapé suite à un accident, et ce, même s'il ne se trouve pas sur le lieu du travail. Mais donc, la question qui se pose, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que faire si on a déjà une condition qui pourrait engendrer une situation de handicap?
Oui, parce que honnêtement, Maxime, c'est vraiment une grosse question. Je pense que quand on vit avec une situation de handicap, c'est la première question qu'on se pose aussitôt qu'on est appelé à aller en entrevue.
Mm-hmm.
Parce qu'on se dit, est-ce que je dois le dire ou est-ce que je le dis pas? Donc, c'est ça.
Surtout
ça.
Si on parle de situations qui sont invisibles, qu'on peut appeler les handicaps invisibles, entre guillemets. Parce
Oui.
Si moi, je me présente avec mon fauteuil roulant, c'est plutôt évident. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, en fait.
Oui, puis dépendamment aussi parce que les processus de sélection sont de plus en plus variés. Donc, peut-être que toi, tu te présenterais un processus de sélection et peut-être que ce sera un examen en ligne et que t'es pas à ce moment-là, on te verra pas. Donc, on verra pas nécessairement le fauteuil roulant. Et à ce moment-là, tu vas dire, à quel moment est-ce que j'aborde le sujet? Est-ce que si je dois... Parce que c'est de plus en plus en vogue aussi de la part des employeurs de nous faire remplir des questionnaires médicaux pré-embauche. Donc, les questionnaires sont de plus en plus détaillés. Et là, à ce moment-là, on va très loin. Et il n'y a pratiquement là, aucune manière là, de mettre ce fait-là si on vit avec une situation de handicap.
Tout à fait. Et par contre, justement, en vertu de la Charte des droits et libertés, un employeur ne peut pas discriminer ni à l'embauche, ni une fois à l'emploi, une personne en situation de handicap.
C'est ça. Donc, le grand principe là, demeure le même. Parce que comme vous en avez parlé avec Maître...
Soudi Bakary.
Oui, la dernière fois. Donc, les employeurs ont une obligation d'accommodement raisonnable, donc que ce soit à l'embauche, mais aussi une fois une fois intégré, donc, au poste de travail. Le hic ici, c'est que est-ce qu'on a aussi une obligation, nous, de notre côté, en tant que personne qui vivons une situation de handicap, est-ce qu'on a une obligation de le divulguer lors de l'embauche?
Ça tombe un peu dans un flou. Et l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce procès qui vient de se terminer. On attend toujours le verdict, cela dit. Mais donc, les plaidoiries sont terminées. C'est ce procès d'une femme, en fait, qui conteste la décision de son employeur. Est-ce que tu peux nous remettre un peu en contexte? Comment ça a démarré?
Oui, donc il y a à peu près une semaine et demie, j'ai suivi ce procès-là pour vous, pour moi aussi, parce que ça m'intéresse énormément. Je considère que ça soulève une question qui est très, très importante, là, cette obligation-là ou pas de divulguer lors de l'embauche et les conséquences que ça entraîne. À ce moment-là, donc, dans cette cause-là, c'est la Commission des droits de la personne qui représente une dame, je la nommerai pas parce que si, bon, c'est pas nécessairement nécessaire, contre une compagnie à numéro. Ce qui se passe, c'est que la dame, elle a un diagnostic de sclérose en plaques lors de l'embauche, sauf que ça ne représente aucune restriction pour elle pour exercer ses fonctions à ce moment-là en tant que préposée aux bénéficiaires. Et un peu plus tard, donc, commence à travailler, est embauchée, commence à travailler, et là, arrive une poussée de sclérose en plaques.
Mm-hmm.
Comme on le sait, bon, à Canalem et tout, on sait que les poussées de sclérose en plaques, là, c'est aléatoire. Hein? On le sait pas. Ça peut m'arriver peut-être dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois. On le sait pas.
Très difficile à prévoir, donc, même de mettre un calendrier là-dessus.
Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la dame, donc, en question, a une poussée de sclérose en plaques, obtient de son médecin un arrêt de travail. Sauf que, selon madame, l'employeur réagit très, très mal à ça, disant que, puis là, je répéterai pas le vocabulaire qui est employé, sauf que disant que, écoute, là, tu me mets dans le pétrin et si je l'avais su, je t'aurais pas engagé.
Donc, tout de même, si on revient encore à ce dilemme-là de le dévoiler ou non, parce que finalement, peut-être que si elle l'avait dévoilé, elle n'aurait pas eu son emploi. Donc, c'est encore ça. Vraiment... de la discrimination.
Exactement. Parce que là, on se dit, écoute, si mon employeur me dit, si je l'avais su, je ne t'aurais pas engagé, ça justifie clairement ma crainte au départ de l'avoir divulgué. On est d'accord.
Exactement.
De l'autre côté, puis on se dit, bien, ça démontre aussi que, bien, finalement, si je l'avais dit, il ne m'aurait pas embauché, donc il m'aurait discriminé lors de l'embauche. Sauf que ça entre en contradiction avec des principes qu'on a en droit civil quand vient le temps de passer un contrat. Quand moi, disons que Maxime, toi et moi, là, on veut faire un contrat, moi, disons que, puis un contrat de travail, c'est aussi un contrat au sens général du Code civil, bien, il faut quand même que les deux, quand on décide de signer dans le bas de notre contrat, il faut quand même qu'on soit consentant. Puis il faut que notre consentement soit libre et éclairé. Puis pour ça, il faut que j'ai toutes les informations nécessaires pour prendre ma décision, mm-hmm. puis pour dire que oui, je suis d'accord pour conclure un contrat avec toi.
Mm-hmm.
Mais là, c'est ce qui est invoqué. On va dire, écoutez, l'employeur, ne sachant pas cette situation-là, n'a pas eu un consentement qui était libre et éclairé. Et à ce moment-là, il y a un vice de consentement. Et aussitôt qu'il y a un vice de consentement dans un contrat, bien, on peut le faire annuler.
Mm-hmm. Donc, c'est un peu là-dessus que, finalement, l'avocat de l'employeur a déposé sa
Tout
défense.
À fait. Tout à fait, en s'inspirant et en invoquant un jugement de la Cour d'appel qui date de 2012. Et là, la grande question, ça va être, est-ce que le Tribunal des droits de la personne va aller dans la même lignée que le jugement de la Cour d'appel qui dit la naissance de l'obligation d'accommodement raisonnable, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est née? Si on n'avait pas divulgué ou si on a fait une fausse déclaration ou si on a omis de le dire lors de l'embauche,
mm-hmm.
c'est là la grosse question. Est-ce que le tribunal va aller dans le même sens que la Cour d'appel en 2012?
Donc, en fait, il y a deux issues possibles, finalement. Pour chacune des issues, brièvement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça aurait comme conséquence et comme effet? Donc, en premier, allons-y, si elle y va dans le même sens que cette décision-là de la Cour d'appel en 2012, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence?
Si elle va dans le même sens, ça veut dire que madame n'a pas le droit à aucune réparation pour le congédiement qu'elle a subi. Donc, ce qui veut dire que madame ne peut pas invoquer absolument rien contre le fait qu'elle ait été congédiée.
Mm-hmm. Et par rapport, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence pour les prochaines personnes en situation de handicap qui postulent à l'emploi? Qu'est-ce qu'il y aurait à ce moment-là?
Ça a le fameux effet très, très négatif de se dire que, écoutez, si je ne divulgue pas lors de l'embauche, après coup, même si j'avais une possibilité d'accommodement raisonnable, qui serait raisonnable dans les faits, là, même s'il y avait une possibilité d'accommodement raisonnable, mon employeur peut se défiler,
mm-hmm.
peut dire que, écoutez, moi, j'ai pas besoin de t'accommoder, mais l'obligation n'est pas encore née parce que tu me l'avais pas dit lors de l'embauche.
Mm-hmm.
C'est une énorme question.
Et si ça va, si la dame remporte la cause, si donc le c'est tranché en sa faveur, qu'est-ce que ça a aussi, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence?
Mais si elle gagne, au moins, ça veut dire qu'on est capable d'aller au-delà de ça puis de prendre en considération toute la situation sociale que vivent les personnes en situation de handicap, que ce soit au Québec ou dans... ou même au niveau international, le droit au travail des personnes en situation de handicap n'est pas du tout gagné, là. C'est extrêmement difficile d'intégrer le marché du travail et la discrimination se passe beaucoup, beaucoup en amont lors de l'embauche. On a souvent beaucoup, beaucoup de mal à mettre le doigt dessus, dire oui, probablement que j'ai été discriminée, là. Bien, puis les statistiques le montrent. Il y a tellement peu de gens qui vivent une situation de handicap qui réussissent à intégrer le marché du travail et même encore moins le marché du travail régulier.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et c'est aussi quelque chose qui est très difficile à prouver, cette discrimination-là.
Tout à fait. Et donc, il faut absolument prendre tout ça en considération et surtout aller dans le même esprit que le législateur a eu quand il a adopté l'article 16 de la Charte québécoise et a voulu enrayer à la source même toutes les sources de discrimination, entre autres fondées sur le handicap.
Et en terminant, Christine... c'est une situation fâcheuse, mais est-ce que au moins ce débat-là va permettre de peut-être faire réfléchir le milieu du travail et de voir est-ce qu'il y a moyen de justement imposer ce moment-là où employeur et employé, une fois le processus d'embauche terminé peut-être, s'assoient à la table ensemble et parlent de questions de santé. Et ne serait-ce que non seulement pour les personnes des gens en situation de handicap, mais tous les travailleurs, parce que nul n'est à l'abri de différentes situations en santé mentale, en santé physique.
Tout à fait.
Est-ce que ça peut faire avancer au moins cette réflexion-là dans le milieu du travail?
Mais je vous dirais que le CAMO, par exemple, pour les personnes mm-hmm. handicapées, pour qui vise à intégrer là, les gens qui vivent une situation de handicap sur le marché du travail, dit souvent, il faut absolument expliquer à l'employeur de manière très positive qu'est-ce qu'on vit. Donc, qu'est-ce que ça nous a apporté? Non seulement, d'expliquer la limite, donc lors de l'embauche, là, mais expliquer la limite, mais essayer d'expliquer aussi tous les avantages, parce que oui, il y en a normalement des avantages qui sont ressortis de cette situation-là qui est difficile. Donc, le fait de pouvoir l'expliquer, puis moi, je vous dirais, vers la fin du processus d'embauche. Parce que si on le dit depuis le tout début, bien là, c'est pas évident parce que ça arrive qu'on a des entrevues à ce moment-là, très sur mesure.
Mais qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Christine Rousseau, avocate et aussi animatrice télé, merci beaucoup de nous avoir parlé de cet enjeu et on va attendre votre suivi après, après le compte-rendu, finalement, la décision de la Cour. Merci beaucoup.
Merci.
Top secret, je me suis contacté, je me suis demandé pourquoi t'aimer, je t'espionne, je te regarde avec cette onde, avec cette brune. Je reste coincé derrière cette rousse parce qu'il me manque du TNT pour la faire exploser. Ta vie en noir et blanc, ça me dérange pas, mais pourquoi tu fais semblant d'être en couleur dès que t'es à l'extérieur? La 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 la. Je me suis commandé des armes en plastique et un code de conduite. Je t'espionne, je te pose des questions bleues ou roses. Mais toi, tu laisses des blancs, tu me regardes avec un air noir. Tu parles trop allemand et c'est pas très 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 intéressant. Ta vie en noir et blanc, ça me dérange pas. Mais pourquoi tu fais semblant d'être en couleur dès que t'es à l'extérieur?
La 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 la.
Je sais même plus pourquoi je veux voler des bouts de ta vie. Je
t'espionne et je nous regarde aller comme dans les comédies cheap à la télé. Un de ces matins, j'en suis sûr, je pourrais te dire, je voudrais te dire, j'aimerais te dire, je pourrais te dire, je voudrais te dire, j'aimerais te dire. Ta vie en noir et blanc, ça me dérange pas, mais pourquoi tu fais semblant d'être en couleur, d'être à l'extérieur? Ta vie en noir et blanc, ça me dérange pas, mais pourquoi tu fais semblant d'être en couleur, d'être à l'extérieur? La 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 la. Chaque pas comme on pose une pièce de puzzle. Tu brouilles les pistes, mais moi je vois clair dans ton jeu. Et nous trouverons quelque chose à faire ou à défaire. À faire ou à défaire. Quelque chose 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 à faire.
Jérôme Minière en duo avec Karine Vanasse pour la pièce Histoire d'espion, un succès souvenir de 2004. Alors, on termine cette émission de Ça vaut le détour avec un petit segment sport. Et qu'on soit débutant ou de niveau plus avancé, jeune ou moins jeune, on peut trouver un enseignement adapté à nos besoins à la Fondation des sports adaptés qui nous fait découvrir de nouvelles possibilités par la pratique de sport de plein air. Pour en savoir davantage, je joins au téléphone le directeur de la Fondation des sports adaptés, M. Steve Charbonneau. Est-il en bout de ligne?
Oui, bonjour.
Oui, je pense qu'on avait quelques problèmes peut-être avec la ligne. Ça va bien, M. Charbonneau? Et à quand remonte la fondation de l'organisme?
Ça a été créé en 1995. Au début, ça s'appelait la Fondation des heures handicapées. Ils ont ajouté des activités, des disciplines à la fondation, donc...
Monsieur Charbonneau, on a quelques problèmes avec la ligne. On va mettre de la musique, puis on va vous rappeler. On revient tout de suite. Alors, on se réessaie, M. Charbonneau.
Oui, bonjour.
Oui, déjà beaucoup plus clair. Donc, on va revenir dans le vif du sujet à la fondation, en fait, de la Fondation de sport adapté. Vous disiez que ça avait été créé en 1995.
Oui, en 1995, par un monsieur qui s'appelle Peter Tracy, qui était lui-même amputé d'une jambe. Et il a voulu partir un programme de ski adapté, parce qu'à l'époque, ça s'appelait la Fondation des skieurs handicapés de l'Estrie, puis ils ont changé de nom par la suite. Ouais.
Et donc, quelles étaient les motivations premières de M. Tracy?
Ben ouais, parce que lui, étant évidemment une jambiste, il disait que pourquoi qu'on trouverait pas une façon d'offrir l'opportunité aux gens qui vivent avec un handicap physique de pratiquer ce beau sport-là. Et lui, ben, d'être capable de skier d'une part, mais de skier aussi avec ses enfants et ses petits-enfants. Et ici, au Québec, c'était pas très développé le ski alpin adapté. Donc, en créant cette fondation-là, ben aujourd'hui, la fondation a le plus gros programme au Québec de loin, là. C'est rendu énorme. On donne la chance à peut-être 60 ou 70 participants là, de skier l'hiver avec nous autres. Là.
Donc, chaque saison, c'est 60-70 participants qui peuvent skier grâce à la Fondation des sports adaptés.
Oui, on en a 42-43 cette année dans le programme régulier. Puis après ça, on a beaucoup de demandes pour des sessions privées. Mais on skie aussi. Voyez-vous, on donne aussi la chance d'aller dans... Avec, exemple, la Fondation Starlight, on s'en va faire skier une douzaine de personnes là, à Chanteclerc. Donc, il y a à peu près juste nous qui a la possibilité d'offrir du ski adapté pour des gros groupes.
Est-ce que vous fournissez aussi l'équipement spécialisé?
Oui, on a tous les équipements. Nous, on pourrait, avec les équipements qu'on a, on pourrait facilement faire skier. Présentement, on fait skier à peu près 20 personnes par session, donc par samedi. Et on pourrait facilement se rendre quasiment à 30 étudiants par session. Là. On parle de tout type d'équipement, mais la plupart, là, les sites ski, là, les skis assis, on en a pas mal, oui.
Comment est-ce qu'on fait pour, en fait, pouvoir faire cette initiation au ski adapté? On n'est pas obligé d'avoir déjà fait du ski auparavant, par exemple?
Non. C'est pour ça que nous, on est reconnus dans le domaine parce qu'on a quand même 82 bénévoles d'hiver seulement là, pour le programme d'hiver. Et les bénévoles sont tous certifiés et capables de donner des leçons, là, peu importe le type d'handicap physique et le type d'équipement. Donc, c'est un ratio d'à peu près 2 et peut-être même 3 pour 1 normalement là, lors des fins de semaine, les samedis. Pour 20 étudiants, on a 60 bénévoles sur les pentes, puis peu importe le niveau du skieur, on est capable de les enseigner sans problème.
Où se donne le programme de ski adapté?
Ça fait 22 ans que c'est à la même place, c'est à All Z à Mansonville, en Estrie, pas loin de Magog. Puis ça fait 22 ans, cette partie-là, c'est pas mal la seule montagne qui ont fait confiance à la fondation à l'époque. Et puis Fred Corman, puis Lillian Corman, les propriétaires, c'est encore eux les propriétaires. Eux ont toujours fait confiance à la Fondation, puis on est encore là, puis on a une très, très belle entente avec eux autres. Ils sont super gentils.
Parlez-nous un peu du programme de ski spécial pour les soldats blessés.
Ça, c'est une autre chose que Peter, mon prédécesseur, quand il a fondé la Fondation, il avait en tête de pouvoir offrir des camps de ski pour les soldats blessés. On sait que les soldats reviennent souvent avec des blessures physiques, mais aussi psychologiques. Mm-hmm. Et nous, avec l'expérience, on a au fil des années, Peter avec la Fondation et les bénévoles, on fait 7 programmes avec Soldier On, un organisme pour les soldats blessés. Et cet hiver, après une absence de 3 ans, on a refait un autre camp de ski à AZ. On a reçu une quinzaine de soldats. Et nous, nos bénévoles sont tous, pour la plupart, là, très expérimentés dans le domaine parce que c'est quand même une clientèle spéciale. Puis on doit apporter un service spécial aussi. Puis dans un groupe de 15 à 20 soldats, bien, il y en a peut-être la moitié qui sont avec des blessures physiques apparentes. Puis nous, on a les équipements pour les faire skier.
Mm-hmm.
Fait que on dit pas non à personne. Quand on reçoit un groupe militaire, bien, on est les seuls à pouvoir vraiment les accueillir. Puis qui skie debout ou qui skie assis, bien, on a les équipements.
Qu'on parle à la fois pour les militaires, à la fois pour les gens qui se remettent peut-être au ski après un accident ou tout simplement si on a une déficience physique et qu'on décide d'essayer ce sport. C'est quoi les commentaires que vous avez après des utilisateurs du ski? C'est quoi qui ressort de cette expérience-là?
Je dirais que c'est pas mal unanime qui tout le monde retrouve une certaine confiance en eux. Je pense que les soldats, pour parler d'eux, là, y en a gros qui vivent dans l'isolement. Puis je pense que ceux qui sont aussi en fauteuil, surtout avec les hivers qu'on a au Québec, ont tendance à vivre dans l'isolement des fois. Puis ben si le sport peut les aider à sortir ou leur donner une raison de sortir puis venir faire du sport puis profiter de l'hiver différemment, ben tant mieux. Puis par la pratique du sport, ben moi je pense qu'on regagne confiance en nous et on vient sociabiliser avec d'autres. Puis ça, selon moi, c'est important parce que c'est pas nous qui on skie tout le monde ensemble. Tu sais, on est ça vient une activité sociale un peu. Puis c'est ça qui est le fun, autant pour ceux qui en déficience physique et ou non, mais tout le monde, on a créé une communauté, puis ça, ben c'est le fun.
Oui, tout le monde partage la même pente, finalement, les mêmes pentes.
Ben oui, puis nous autres, ben c'est sûr que les bénévoles, on en retire autant, sinon plus. On voit le sourire sur le visage des gens, les jeunes et moins jeunes, qui essayent le ski pour la première fois ou qui font partie du programme puis qui évoluent aussi. Hein. Il y a une progression dans le type d'équipement selon le niveau. Puis l'apprentissage se fait tranquillement, mais il y en a qui apprennent plus vite que d'autres. Puis ça, c'est le fun. Ils voient qu'ils progressent bien puis qu'ils sont rendus dans un équipement plus élite. Puis il y a des objectifs à atteindre aussi. Là. C'est pas juste se faire descendre par un bénévole. C'est eux qui skient, c'est pas nous. Nous, on est là pour les assister, mais c'est vraiment eux autres qui skient, puis c'est le feeling de l'autonomie, l'indépendance. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est intéressant.
Mm-hmm. Et que la neige soit un allié plutôt qu'un obstacle, comme c'est plutôt l'habitude. Il nous reste quelques minutes. Pouvez-vous nous parler du défi d'Ahu?
Le défi d'Ahu, ouais, c'est un concept que j'ai mis sur pied l'an passé. Je trouvais que en fait, à la base, le Dahu, c'est une chèvre mythique. On compte ça dans les camps de jour. Là, c'est une histoire avec les chèvres qui ont les pattes de gauche plus petites que les pattes de droite. Donc, les chèvres dans les montagnes, ils ont accès aux montagnes, mais ils peuvent juste tourner dans un sens dans la montagne. Puis je trouvais que le concept de concevoir, ben, en fait, l'idée de concevoir un fauteuil adapté permettant aux personnes d'aller avec l'aide de gens qui peuvent courir, d'aller dans les bois et participer dans les compétitions de course, comme les X-Trail et compagnie, uh-huh. Les Bromont. Moi, je trouve que c'est l'inclusion, c'est de faire partie d'un groupe qui participe à une course qui n'est pas conçue pour les personnes vivant avec un handicap physique. Je trouve que c'est au niveau de l'inclusion, c'est intéressant. Puis nous, ben, on a des participants qui, sans ça, ils ne pourraient pas vraiment aller dans les sentiers, dans les bois ou dans les montagnes.
Donc,
puis on veut faire du team building avec les entreprises avec ça. Fait qu'en même temps, c'est les entreprises qui permettraient à une personne avec un handicap d'aller au sommet d'une montagne. Je pense que c'est intéressant.
Donc,
le jumelage est bien.
On sort de la montagne et on s'en va dans le bois. On voit qu'il y a vraiment plusieurs possibilités avec la Fondation des sports adaptés.
Oui.
Steve Charbonneau, vous êtes directeur. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue.
Merci à vous.
C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Je remercie mes invités, M. Steve Charbonneau, Christine Rousseau et Kevin Breton, ainsi que Anouk Pelletier et Nadia Benoît, avec lesquelles on avait commencé l'émission. Je remercie mon équipe technique, Christiane Campagna à la recherche et aux médias sociaux, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'était Maxime Despomerleau pour une autre émission de Ça vaut le détour. À bientôt.